Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans publicité ni sponsor. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, car ouvert cette semaine, il faut s'y précipiter. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Gwenola Leroux. Bonjour Gwenola.
Bonjour.
Voilà, pour le temps des gilets. Il n'y a pas eu un palmeau jaune dessus, pour des gilets, voilà. Roman vrai, c'est publié chez l'Harmattan.
Voilà. Hein?
Puis je vous présente Monique à la technique, sans laquelle rien ne serait possible, voilà. Hein, d'accord. Alors, je dédie cette émission au maire de Pantin, je ne sais pas si vous avez suivi, qui est vous. Alors, j'ai vu que vous étiez une tenante de l'écriture inclusive, parce que vous écrivez auteur avec un E et producteur avec un E dans le livre.
Oui, enfin, je ne suis pas acharnée d'accord sur l'écriture inclusive, mais bon, je la
mais
pratique.
Lui, il a fait très fort, il a fait une demande officielle pour transformer Pantin en Pantine.
Ah oui, j'ai entendu ça.
C'est le crétin absolu.
Je trouvais absolument
alors,
absurde.
Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que les réseaux sociaux, là, pour une fois, m'ont fait rire. Ils ont fait une demande pour que Jean Lépin devienne Jean Lé.
Ça engendre. J'ai vu Tintine aussi, au Pérou.
Ça allait bien, ça allait. Ben oui, c'est bien, les gens, les pines. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent. Mais voilà. Donc, c'est le temps des gilets, pas le gilet jaune, d'ailleurs, Roman vrai. Bien sûr, on pense à Aragon. C'est un peu truqué, parce que je pense à Aragon, parce que j'ai lu le dernier, vous aviez écrit sur Aragon.
Oui, j'ai fait ma thèse en fait, de doctorat sur Aragon. J'ai travaillé de longues années avec Aragon, sur Aragon. Et c'est effectivement, Roman vrai, c'est effectivement un clin d'œil au mentir vrai d'Aragon.
Mentir vrai d'Aragon.
Ouais.
Voilà, moi, il y a un ami qui est venu il n'y a pas longtemps, Valère Staraselski, qui a chez l'Harmattan, qui a publié trois livres sur Aragon aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore apporter à Aragon quand on travaille sur Aragon?
Qu'est-ce qu'on peut lui apporter?
Oui, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire qu'on n'aurait pas dit?
Bon, je pense que toute nouvelle lecture est un apport, hein, chacun apportant son œil, sa sensibilité, sa génération, ses préoccupations par rapport à Aragon. Moi, quand j'ai travaillé, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Aurélien, et il y avait encore, à ce moment-là, il y en a peut-être un peu moins maintenant, mais il y avait encore des mystères, c'est-à-dire quel était le pilotis réel de Bérénice. Enfin, ça a beaucoup fait causer, puisque Aragon avait refusé de donner... la personne dont il s'était inspiré, la femme, voilà, qui l'avait inspiré pour Bérénice. Et j'étais amenée à rencontrer un cinéaste qui avait fait une émission sur Aragon, qui m'a dit, mais moi j'étais là quand il l'a dit, il me l'a dit qui c'était, enfin, etc. Enfin voilà, donc j'avais fait ça sur le masque de l'inconnu de la Seine. Il y avait des choses encore à découvrir. Enfin, il y a des clés, les clés des romans sont toujours presque infiniment étudiable, voilà. Et moi, je suis allée, je suis très intéressée par le rapport de la littérature au réel. En fait, comment la littérature puise dans le réel pour devenir littérature. Moi, je me suis déplacée dans la Drôme parce que Aurélien a été écrit entre 42 et 44, donc pendant la Résistance et pendant qu'Aragon était clandestin. Et donc, j'ai fait tous les lieux de la clandestinité de Nice en allant juste en remontant vers la Drôme, Lyon, en passant par Lyon, puis la Drôme. Et j'ai découvert, je suis allée voir, enfin, j'ai cherché les lieux où avait été écrit le roman. Voilà.
L'Humanité a publié ça fait 40 ans qu'il est mort, Aragon, c'est ça, si je m'abuse. Oui, corrigez-moi, c'est à 40 ans.
Oui, c'est ça.
L'Humanité a fait tout un cahier, bien fait, où je vous disais hors antenne, on commence à dire des choses qu'on avait laissées un peu sous silence, ou à mezza voce depuis longtemps, son homosexualité. Très, très rapidement avoué après la mort d'Elsa. Il n'y a quasiment pas de transition.
Oui.
Alors pour la morale populaire, elle peut en prendre un coup. Oui, ça peut être choquant pour certains, puisque il vivait quand même sur un fond de commerce. Hein. Les yeux d'Elsa, l'amour d'Elsa, etc. Et quand on arrive comme ça, il n'est pas sûr que tout le monde arrive à admettre ce brusque...
Disons que c'était un grand amoureux.
Oui, bien sûr, c'est peut-être ça aussi. Dire aussi qu'il a été stalinien comme tous les gens du PC. toute une période, faut l'avouer. Hein. Et puis il y a une phrase qu'ils ont mis en là, qui apparaît, alors qui dit, où Aragon aurait dit, j'ai raté ma vie.
C'était, je pense, un pessimiste. C'était, il avait un versant très très sombre, très noir.
Le roman inachevé est terrifiant.
Oui.
Hein, au niveau de la défaite, le roman inachevé.
Ça. Tout à fait. Moi, j'avais fait ma thèse. D'ailleurs, ça s'intitulait Modernité et tragique chez Aragon. Parce que je pense que c'est un tragique aussi.
D'ailleurs, comme il en a toujours rajouté à la fin de sa vie, il finit avec un masque sur son visage.
Oui. Hein? Il cache la vieillesse.
C'est un tragique outrancier aussi, il faut bien dire. Il en a toujours énormément rajouté. Aussi bien dans les poèmes de la Résistance, etc.
Oui, mais je pense que c'est un tragique profondément sincère aussi. Hein,
mais ça, c'est pas... Oui, c'est pas antagoniste. C'est pas antinomiste. Il y a un deuxième, c'est Alain Jouffroy, qui a écrit le roman Vécu.
Oui.
Vous saviez ça ou pas? D'accord, oui. Alors, est-ce que c'est un roman vécu, votre Le Temps des Gilets, ou pas?
C'est un roman en partie vécu, oui. Il y a une dimension fictionnelle que j'ai voulu glisser par respect pour les gens qui ont témoigné, et puis parce que c'est ma façon d'écrire, parce que j'ai besoin d'une part de fiction pour que ça fonctionne, pour que mon écriture fonctionne. Donc voilà, il y a une part de fiction, mais c'est un roman vécu aussi, oui.
Vous étiez dès le départ avec les Gilets jaunes
Oui, je suis descendue, je suis allée le 17 novembre 2018 sur les Champs-Élysées, entendant les différents échos disant qu'il y avait une mobilisation ce jour-là et qu'il fallait porter un gilet jaune. J'en avais pas parce que j'avais pas de voiture à Paris. J'ai pas toujours pas de voiture à Paris. Donc je me suis dit, j'y vais quand même. Les Champs-Élysées, on verra bien. Et puis je me suis dit, j'achèterai sans doute un gilet jaune sur place. Il y aura bien des ventes de gilets jaunes. Enfin, j'avais en tête un peu les anciennes manifestations avec des gens qui vendaient des choses. Et finalement, effectivement, il y avait un petit monsieur, comme je le raconte, il y avait un petit monsieur qui avait son cabas et qui avait des gilets jaunes et des sifflets dedans, et donc je lui ai acheté un gilet, et voilà, donc j'étais, oui.
Et vous venez de Bretagne, des bonnets rouges.
Oui. Voilà. Oui, enfin moi je suis à Paris depuis un moment, mais je suis aussi très liée à la Bretagne, où je retourne très très régulièrement, et j'ai une résidence, oui.
Parce que vous dites, à un moment donné, dans la rue, il y avait outre des... Il y avait des drapeaux noirs, il n'y avait pas d'autres drapeaux, je cite dans le texte, il n'y a pas d'autres drapeaux, il y avait des drapeaux noirs, mais on a vu à Paris des drapeaux français, ce qui est... on va pouvoir en parler.
Des drapeaux bretons aussi,
oui,
hein, mais il y a toujours
bretons,
eu.
Bretons, hein, oui, moi ça...
C'est drapeaux pas une normands chose. Aussi.
Oui, les drapeaux bretons, c'est un mouvement aussi extrêmement composite, le mouvement de libération de Bretagne.
Oui.
Quand on en connaît, je ne sais pas si vous en connaissez, vous connaissez l'histoire aussi de la Croix.
Il y a
tout un pan qui n'est pas très, très glorieux, hein.
Non, il y a un pan qui n'est pas glorieux, effectivement,
hein, comme
dans le mouvement, par exemple, irlandais aussi.
Comme dans le mouvement irlandais, bien sûr.
Il y a une pente glissante qui fait que quelquefois, les gens sont tentés de s'allier avec les ennemis de leurs ennemis, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y a une réaction contre le jacobinisme.
Contre le jacobinisme, français. Mais ça n'empêche pas qu'il y a tout un port du...
Mais il y a aussi, on cite un peu moins, alors c'est peut-être, je trouve, un peu déséquilibré. C'est que maintenant un peu plus, mais pendant longtemps, on s'est focalisé sur cette collaboration de certaines franges des autonomistes bretons. On cite un peu moins quand même le fait que tous les marins de l'île de Sein soient partis dès l'appel du général de Gaulle, décider de partir en Angleterre.
Mais on sait aussi que ça, c'est les années 40-45. Oui. Ça, on le sait, c'est-à-dire qu'il y a ce groupement breton qui a été une des formations ouvertement nazies en France.
Ah oui.
En France, là. On sait qu'il y a les gens de l'île de Sein, mais lorsque le mouvement renaît dans les années 60, vous me corrigez, hein, 70-80, BZH, là, il y a toute une frange qui est une frange d'extrême droite.
Là, je connais moins mouvements de renaissance. Bon, je pense qu'il y a, une sorte de filiation, effectivement, mais moi, mon père a milité pour la Bretagne, mais pas dans ces mouvements d'extrême droite, mais dans le MOB, qui était un mouvement pour l'organisation de la Bretagne, le MOB, qui était assez pluraliste. Hein, voilà, c'était pas que des gens de gauche. Mon père, par ailleurs, était syndicaliste et sympathisant communiste. Mais voilà, donc il s'est trouvé effectivement avec des gens divers. Effectivement, il y a des liens avec peu le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a une fraternité qui se crée sur une certaine problématique pour un combat qui ne correspond pas forcément à d'autres options idéologiques. Quoi. Voilà.
Bah, ça va être le thème de l'émission. Hein, et surtout qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie de deux crapules qui viennent de sortir un numéro de Front Populaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la fin de l'Occident, point d'interrogation, où Houellebecq, on ferait la rencontre. Vous l'avez lu ou pas?
Alors,
c'est une catastrophe. Hein.
J'en ai lu que des extraits. Je l'ai cherché là, ce week-end, mais je ne l'ai pas trouvé ni en librairie, ni dans les bibliothèques municipales autour dans mon quartier. Donc voilà. Mais j'en ai lu des extraits.
Non seulement,
et je connais un peu les deux, évidemment.
Enfin, non seulement c'est minable. C'est extrêmement minable au niveau du propos, c'est-à-dire on est au bistrot, mais ce sont des gens qui ont peur. On sait très bien que le fascisme vient aussi de la peur, hein, voilà.
Oui, moi je pense qu'il y a une grande, voilà. Quelque chose de paranoïaque presque.
Bien sûr. Et moi j'ai tourné autour du kiosque depuis, ça fait 15 jours que je tourne autour du kiosque en me disant est-ce que tu donnes 14 euros à là. J'ai tenu à le faire. J'engage les gens, après c'est fini, hein, à lire, ils vont comprendre plein de choses, comment on arrive, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30, comment des gens venant des mouvements socialistes, des mouvements du socialisme libertaire, se sont retrouvés dans la collaboration. C'est exactement ça. J'ai fait une émission on revient à votre livre après, premier juré, hein. J'ai fait une émission il y a 10 ans, avec un historien spécialiste de l'extrême droite, Jean-Paul Gaultier. Pas le couturier, hein, un historien. Et j'y avais dit comme ça, tout sera changé lorsque l'extrême droite va trouver des intellectuels ou des pseudo-intellectuels. Et il m'a dit, oui, je suis d'accord avec toi, avec vous. J'ai dit, mais qui tu vois? Il y a 10 ans de ça, il me dit Michel Onfray.
Ah oui.
Voilà. C'est-à-dire que tout était déjà en germe, là, dans le virage. Et effectivement, le dénommé Houellebecq, on va y revenir tout à l'heure, il a failli avoir le Nobel, hein, il a failli avoir le Nobel il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qui est raciste ouvertement, qui est de droite ouvertement, qui a une inflation sur lui.
Ouais, moi, je l'ai surtout abordé sur un plan littéraire. Enfin, voilà, j'ai lu Les particules élémentaires, qui était son premier grand succès, là. Et j'avoue que, enfin, très honnêtement, hein, sans chercher au-delà, j'ai jamais accroché, voilà, à ces livres parce que je ne trouve pas qu'il y ait d'écriture, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de travail sur l'écriture. Pour moi, la littérature, pour moi, c'est quand même un travail sur l'écriture, voilà. Nous sommes des artisans des mots, du langage, et je crois que c'est ça notre devoir finalement, c'est de capter la réalité à travers une sensibilité et par le langage, qui est un outil complexe. Donc moi, j'avoue, j'accroche pas du tout à ces textes. Par ailleurs, c'était amusant parce que les particules élémentaires, par contre, ça portait sur, je sais pas si vous vous souvenez, sur un lieu particulier que moi je fréquentais depuis longtemps comme Houellebecq. Voilà. Et par contre, donc je voyais très bien, j'ai très bien vu de qui il parlait, de quel lieu il parlait, j'ai reconnu des silhouettes de gens, et c'était très méchant parce que c'est un lieu qui est tout à fait critiquable, hein, mais c'est un lieu aussi qui a des aspects extrêmement intéressants et généreux et humanistes. Voilà. Et lui, il n'a pris que le côté petit.
Il est petit et étroit.
Méchant. Mais
c'est
méchant.
Voilà. C'est exactement ça.
Et donc, moi, ça me. Et d'ailleurs, il a perdu en procès contre le lieu qui l'a attaqué. Hein.
Vous savez que Libération, il y a une quinzaine d'années, et ça, c'est rare, hyper rare, hyper rare, a consacré quasiment un numéro spécial à la poésie de Houellebecq, qui est une poésie catastrophique, excusez-moi le terme, de merde. C'est étroit, petit, mesquin, mais ça veut dire le signe du temps, comment Libération peut trouver un poète, et ce poète, c'est Houellebecq. Là, il y a une plainte de la mosquée de Paris sur son entretien qu'il a fait avec Onfray, là. Il a retiré, la mosquée a retiré sa plainte, et Onfray a été faire se justifier auprès du Figaro. C'est-à-dire qu'on est totalement dans la droite, on est dans l'extrême droite et dans la droite avouée, quoi. C'est un basculement qui est là. Hein? Alors, le temps des gilets, voilà. Donc, on a plein de choses à se dire, plein à se dire sur ce. Voilà. Alors, dès le départ, il faut que je retrouve la... On ne sera pas d'accord sur... À un moment donné, on ne va pas être d'accord. C'est comme ça. C'est sur tout l'œcuménisme. J'appelle ça l'œcuménisme. Hein. Comment vous, toutes les sensibilités que vous acceptez sont réunies. C'est-à-dire, j'ai un passage là. Alors, les flics déferlèrent sur eux, matraquent au poing les poursuivants dans les rues, une plongée dans l'action dont il se souviendra. Leur manif n'avait de sauvage que son caractère de liberté. Et c'est là que ça arrive. Le baptême du feu se poursuivra sur les champs où il tombe sur un jeune de son âge avec un drapeau monarchiste, lui qui brandit un drapeau noir. Ils descendent ensemble vers l'Élysée, sont refoulés par des charges, remontent vers l'étoile, puis repartent tranquillement vers le palais présidentiel où le peuple voudrait faire entendre sa colère et réclamer la justice sociale. Les mouvements de foule en gazage, une fraternité inattendue née entre eux, sale anarque, crie l'un, sale monarchiste, réplique l'autre en souriant. Voilà. Bon, c'est-à-dire que pour vous, cette fraternisation est possible.
C'est que...
Elle n'est pas regrettable.
C'est que, déjà, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Elle continue d'avoir lieu, en partie. C'est-à-dire que, j'ai une histoire de manif de gauche pour dire vite. Bon, je vais, moi, avec mes propres motivations, anticapitaliste, revendicative, sociale, pour plus de démocratie, etc. Et puis anti-taxe, surtout, très concrètement, quoi, hein, parce que je vis de moins en moins bien aussi, pourtant j'appartiens à ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Bon, donc j'y vais ce jour-là, je vais dans la rue, je retourne le 8 jours après, etc., etc., de semaine en semaine, et je vais m'apercevoir, en fait, je vais petit à petit être rencontré, enfin des gens, avec un grand étonnement hein, au départ, hein, peut-être de la naïveté justement de ma part, qui ne sont pas du tout qui viennent pas du tout du même bord que moi, qui viennent même d'une certaine, je dirais d'une certaine extrême droite. Je sais pas comment l'appeler.
Non, mais allez-y.
Non, c'est pas pour éviter le mot, mais j'ai découvert aussi petit à petit, en discutant avec les gens, que ce qu'on appelle extrême droite était divers. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je sais pas trop comment les nommer. C'est-à-dire que c'est le front, c'est pas des gens du Front National qui étaient là, mais il y en avait peut-être, il y avait sûrement qui avaient voté Front National. Mais il y en a qui ont une autre histoire, à la limite plus extrême, mais plus populiste.
Mais c'est pas parce que voilà. C'est que c'est justifiable.
Ah non,
c'est
mais moi, je relate. Ouais. Je voulais relater cette réalité vécue. Et dire comment ça s'était passé, quoi. Et voilà. Et c'est sur les ronds-points, c'est pareil. J'ai eu des récits donc de gens qui se sont trouvés avec des gens qui venaient d'une toute autre obédience. Et pourtant, c'est amusant parce que la manif de samedi là, dans la manif de samedi à laquelle j'étais, d'accord. Oui aussi. Il y avait un journaliste de France Info qui interrogeait. Enfin bon. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, bon, ça y est, ils nous ressortent encore toujours les mêmes choses, les mêmes formulations, quoi. Est-ce que ça ne vous gêne pas de défiler avec des gens qui sont d'extrême droite, etc. Mais on se trouve au même endroit et on lutte pour la même chose à un moment donné. Voilà. On peut s'interroger comment et pourquoi. C'est aussi pour ça que j'écris le livre. Mais c'est un fait. On est au même endroit, on s'oppose, et moi ça m'a sidéré les premières fois où j'entendais les gens crier avec des slogans anti-anticapitalistes. Le slogan anti-anti-anticapitaliste, c'est un slogan qui est scandé par tout le monde dans les cortèges. Tout le monde, voilà.
Oui, mais s'il y a confusion, s'il y a confusion et danger idéologique, on peut pas y adhérer. Vous parlez de Nuit debout dans votre livre, à un moment donné. Vous vous souvenez, oui. Vous parlez de Nuit debout. Un jour, j'ai traversé la place de la République, qui sentait pas très bon parce que les gens chiaient, pissaient à droite. C'était comme ça. Et un jeune type m'a tendu un tract. J'ai lu le tract. Et ça commençait par un discours assez sympathique. Et ça finissait par du Alain Soral, le mec ouvertement d'extrême droite. Et le type se faisait rouler dans la boue parce qu'il n'avait pas un don d'analyse. Mais si on vient de la gauche, on vient de ces mouvements-là, on doit pouvoir analyser le danger. écoutez, après on écoute un peu de musique et on
oui,
touche dedans,
oui, d'accord.
Je ne vais pas être au beau temps du situationnisme, vous citez le situationnisme,
oui,
là,
oui, bien sûr,
il y avait toute une mode qui faisait que... on prenait des films à deux balles, des films porno à deux balles, souvent des films asiatiques, comme ça, et puis on les détournait. Oui. On les détournait, comme ça. Il y en avait un qui était un film phare de l'époque. On voyait un étudiant courir dans la rue, il était poursuivi par un CRS. Le CRS lui fout un coup de matraque. Bon, ben voilà. Et le soir même, il y a une espèce d'orgie où partout, c'est dans une ville de province, qui se déroule. Et l'étudiant, il est à poil. Qui c'est qui est derrière lui avec autre chose que sa matraque? C'est le CRS qui a tapé dessus. Bon, la métaphore est un peu osée, un peu facile. Mais c'est, voilà, c'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. On va y revenir, d'accord?
Il y a des choses qui sont réelles.
Voilà. Ah, oui, mais oui, bah, bien sûr. Voilà. Oui, mais on va plonger dedans. Le fascisme est réel.
Les mouvements populaires
sont fascistes.
Oui,
fascistes. Ce qui s'est passé ce matin au Brésil.
J'ai entendu ce midi. Là,
c'est intéressant. Vous n'avez pas vu les images?
Non, je n'ai pas vu encore. Non, voilà. J'ai pas vu.
On va y revenir. Oui, oui. Merci, Monique.
The very thought of you and I forget to do the very ordinary things that everyone ought to do. I am living in a kind of daydream. I'm happy as a queen, and foolish though it may seem to me. The mere idea of you, the longing here for you will never know how slow the moments go until stars above, it's just a thought of you, the very thought of you, my of you, the longing for you
on a parlé hors antenne, là, c'est la fameuse notion de peuple, parce que tout le monde se gargarise avec ce mot depuis quelque temps. Ben, vous écoutez Marine Le Pen, il y a du peuple par là, Mélenchon, il y a du peuple, il y a du peuple partout.
Oui,
qu'est-ce que ça veut dire le peuple?
C'est le peuple, c'est oui les gens qui vivent dans un pays, je pense, et qui travaillent et qui travaillent pas quelquefois, mais et qui cherchent à vivre, voilà, de leur des moyens.
Vous avez vu les images du Brésil ce matin là?
Je n'ai pas encore vu les images. J'ai entendu à la radio qu'il y avait eu. C'est une partie du peuple.
Voilà.
Mais oui, mais je pense que il y a un peu, ce qu'on disait hors antenne, il y a un populisme de gauche et un populisme de droite. Et bon, pour moi, populiste, c'est dans le sens que lui donne Mélenchon, enfin, quand il fait référence à, je ne sais plus quel est le nom de la philosophe là, qui vient d'Amérique du Sud, qui a aidé à l'élaboration du programme. C'est la préoccupation, des gens, quoi, enfin, pour les gens. Voilà. Et à un moment donné, on peut juger de son point de vue qu'une préoccupation une façon d'agir n'est pas glorieuse, mais elle est là, quoi. Elle est là. Hein. La démocratie, c'est considérer que tout ce que veulent les gens, enfin tout ce à quoi ils aspirent, tout ce dont ils ont besoin aussi. Hein. Donc, ce qu'on disait dans la manifestation encore la samedi dernier, il y a deux jours, donc c'était, on répondait à un journaliste qui nous interrogeait. On disait mais quand on n'arrive pas à la moitié du mois, quand on est à découvrir la moitié du mois, qu'on fait attention en ayant travaillé toute sa vie, et pourtant moi, donc, j'étais prof, donc j'étais parti à la classe moyenne, mais j'en suis arrivée à faire attention à ce que j'achète pour manger, hein, parce que j'ai encore des filles à charge. Bon, quand je ne peux plus rien m'offrir, enfin je veux dire en dehors du loyer, des charges, etc., rien. Pratiquement rien, quoi. Sauf un bouquin, parce que ça, je craque quand même pour les livres. Enfin, bon, c'est quand même... là, il y a des qu'on soit de gauche ou de droite, on a les mêmes problèmes.
Je ne serais pas prêt à m'allier avec quelqu'un qui va me matraquer demain. Je veux dire que les gens qui ont essayé de s'en prendre à l'Élysée, vous en parlez dans votre livre, là, il y avait des bons fachos à l'intérieur. Un facho demeure un facho. On ne peut pas s'entendre avec un facho, c'est pas pareil, c'est pas possible.
Il y avait un mélange, hein, parce que les gilets jaunes, le
mouvement
des gilets jaunes, les gens sont venus spontanément, sont venus par les réseaux sociaux, sans trop savoir. Moi, je suis venue, j'ai entendu ça à la radio, il y a des amis qui ont relayé, les gens sont venus assez spontanément, ils savaient pas ce qu'ils trouveraient. Et ce qu'on a trouvé dans la rue, c'est des tas de gens qui apparemment étaient venus comme nous, mais on savait pas exactement pour quelle raison, quelle raison était commune, mais on s'est trouvés ensemble dans la rue à dire voilà, ça peut plus durer. On est étranglé par les taxes, on peut plus vivre de nos salaires ou de nos retraites. On en a marre de ce gouvernement. Macron tient un discours complètement hypocrite nous on l'appelle d'extrême centre.
Mais terriblement, le rôle de l'intellectuel ou de l'écrivain, justement, c'est de pouvoir éclairer tout ça.
Oui.
Voilà, nos deux crétins qui sont là, Houellebecq et Onfray, c'est vraiment l'exemple même de gens qui vont vers une forme de populisme. Avec tout ce que ça comporte, dans le populisme, il y a une forme d'aristocratie au-dessus. Hein. Faut pas croire. Hein. Bah oui, forcément.
Je sais pas ce que vous entendez par aristocratie
au-dessus. Ils vont se faire diriger. Ils vont se faire diriger. Pour ça, le terme de démocratie directe est un terme qui est très ambigu aussi.
C'est très complexe pour savoir combien ça... Mais enfin, il y avait cette revendication, en tout cas, de plus de démocratie, de ne pas déléguer le pouvoir à des gens qui vont l'exercer comme ils veulent, en fait, pendant un mandat, et puis d'avoir un droit de regard, surtout que ce sont des privilégiés. Voilà, ce sont des privilégiés. Hein, et les scandales se multiplient, donc il faut quand même que la démocratie évolue. On ne peut plus rester... Et c'est ça qui était revendiqué dans les cortèges. C'était d'abord les taxes... contre les taxes, mais aussi très très vite sont apparues des grandes banderoles sur le RIC. Bon, et donc on a discuté de la démocratie directe. Il y a eu une remise en question, une analyse par exemple du rôle des banques, du système, sur quoi repose notre société, sur la dette, sur le système bancaire, etc. Et ça, c'était quand même des analyses partagées par des gens d'obédience très différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, hein, et c'est des questions que je pose, hein, c'est les questions que vous me posez, je n'en ai pas forcément, j'ai pas forcément une réponse dogmatique à vous donner. Hein. Je m'interroge dans le livre, je raconte, je veux raconter, je veux témoigner. Je témoigne d'une fraternité réelle dans la rue. Dans la rue, c'est-à-dire marcher ensemble, se battre contre ensemble, et puis après, la répression nous a soudés. La répression nous a soudés parce qu'il fallait se défendre contre les gaz lacrymogènes, contre les LBD, contre les grenades, etc. Et ça, effectivement, il y a des gens qui sont allés, entre guillemets, en première ligne, qui ont répondu. On n'était pas, ils n'étaient pas en train de se trier entre eux, hein, parce qu'il fallait, faire face, ils ne se triaient pas.
Moi, je vais vous raconter une histoire de gilets jaunes. Les gens sont dans un autobus au matin. Dans cet autobus, c'est un autobus qui part de la Défense, le dimanche matin, qui est peuplé de gens noirs qui vont nettoyer les bureaux de la Défense. Là, à Nanterre, plutôt, l'autobus est bloqué par des gilets jaunes qui sont là. On descend, on descend là, et on va au bas, il y a une brasserie, on va à la brasserie, et là, nettement, les gilets jaunes qui sont là sont séparés en deux parties. Des gens, bon, je vais vous dire ce que c'était. Il y avait un garagiste et un pharmacien d'un côté, donc pas des nécessiteux, et d'autres à l'autre côté des gens qui étaient beaucoup plus une infirmière ou des gens comme ça, des gens plus en difficulté. Et au milieu de cette place, il y avait des travaux. Et là, c'est la mystique de la rue, comme vous l'appelez, et c'est l'humour aussi. Il y avait deux Africains qui avaient effectivement des casques et des gilets jaunes qui faisaient des trous avec des là. Et on peut dire que celui que le pharmacien et le garagiste n'avaient strictement rien à faire de ces pauvres types qui faisaient des trous au milieu de la rue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas conciliable. Dans votre œcuménisme, à un moment donné, vous essayez de rameuter les francs-maçons. Vous le faites ? Oui, après, vous avez la parole. C'est transclasse, c'est-à-dire, est-ce que vous reconnaissez la lutte de classe ? Est-ce que les gilets jaunes reconnaissent la lutte de classe ou pas ?
Alors, moi, gilet jaune et avec mon histoire, je reconnais tout à fait la lutte de classe. C'est tout ce que je peux vous répondre. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'ensemble des gilets jaunes, bien sûr. Y en a beaucoup qui reconnaissent, bien sûr, qui parlent de lutte de classe. Hein, beaucoup, beaucoup. Je pense que on s'est interrogé sur les pourcentages, après, ou moi, à un moment donné, de quoi était composé le mouvement, etc. Bon. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux tiers de qui viennent de la gauche et puis un tiers de la droite, quoi. Bon, après, ça peut être contestable. C'est dur de compter. Mais enfin, en gros, je pense que c'est ça. Alors, pourquoi j'ai oublié, du coup, la question à laquelle je voulais réagir ?
La lutte de classe et les francs-maçons.
Oui, ah oui, les francs-maçons. Alors, bon, moi, je parle des francs-maçons parce que je fais témoigner un camarade gilet jaune qui est passé dans son histoire personnelle par la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai pris son témoignage et je l'ai pris en entier. Et ça me semblait intéressant, justement, de le faire témoigner parce que dans le mouvement gilet jaune, il y a beaucoup de slogans un peu rapide et un peu étroit et bête sur et les francs-maçons ils sont tous c'est tous des pourris les francs-maçons c'est on a l'impression que c'est les francs-maçons qui mènent le monde et qui sont tous au pouvoir etc. Bon, moi je suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie, mais je me souviens quand même dans l'histoire que la franc-maçonnerie a aussi a mis en avant des valeurs et que je sais qu'il y a des gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie humblement en adhérant à certaines valeurs humanistes et d'égalité et de fraternité etc. Donc j'étais même dans un premier temps un peu étonnée de ces slogans répétitifs, etc., qui étaient un peu, qui étaient étroits, qui étaient même pas à discuter. C'était de l'ordre de la répétition. Et donc ça m'intéressait. Il se trouve que un de mes camarades était passé par l'information, donc j'en témoigne. D'ailleurs, je le laisse parler là-dessus. Et puis à ce moment-là, je lisais lisais donc des textes de Louise Michel. Et Louise, je tombe pas vraiment aussi au moment où je travaillais, donc je tombe sur un passage où Louise Michel parle de l'action des francs-maçons lors de la Commune. Voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant de le relater aussi.
Alain Ruscio,
pour aller à l'encontre d'un poncif qu'on entend dans le mouvement. D'accord. Pour aller à l'encontre d'un poncif.
Alain Ruscio, qui est historien, qui a fait un livre, qui est venu ici il y a deux mois, je crois, qui a fait un livre Arago et le colonialisme, un livre très très intéressant, a fait un très bel article sur la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Elle est avec d'autres communards, et qu'est-ce qui se passe? Il y a là des indigènes. Déjà, ils sont pas blancs, ils sont mal foutus, ils sont pas peignés, etc. Et ces communards, les refusent, et la seule qui vient défendre les indigènes, c'est Louise Michel. Mais on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire que moi, je pourrais pas manifester avec des homophobes, je pourrais pas manifester avec des racistes, je ne pourrais pas, oui, bien sûr, etc., etc.
Oui, mais le paradoxe et ce qui montre que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que souvent que l'idéologie et la théorie qui ont tendance finalement à... C'est utile aussi, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais théoriser, abstraire, c'est aussi d'une certaine façon simplifier le réel. J'ai mis roman vrai parce que le roman, justement, pour moi, a cette vertu de mettre en scène la complexité de la réalité, la complexité des humains. Et par exemple, un des paradoxes, vous dites, moi je ne manifesterai pas avec des homophobes, c'est que ce que vous considérez, mais qui le sont en partie, je sais, homophobes, eux manifestent avec des homosexuels qui s'affichent et qui s'affirment, hein, qui se sont affirmés dans les cortèges gilets jaunes. Il y avait quelques figures, hein, qui s'affirmaient très très théâtralement d'ailleurs, hein, et qui étaient copains comme cochons avec les autres. Et c'est cette réalité là, moi, que j'ai vécue et qui m'interroge aussi. Qui m'intéresse et qui m'interroge. Il y avait une fraternité entre des gens qui, théoriquement, idéologiquement, étaient opposés. Alors, ça marchait, comme on disait tout à l'heure, parce que ça fonctionnait parce que on ne faisait que, si on veut, hein, marcher ensemble, défiler, manifester ensemble. C'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué quand on se met à parler ensemble. Et il y a pas eu toujours beaucoup, je sais pas quel degré quelle quantité de dialogue. Moi, j'ai dialogué, et Dieu sait si quelquefois ça m'a posé problème, hein. Je veux dire, je me suis engueulé.
Vous avez un personnage qui est ancien flic, qui est d'extrême droite.
Oui.
Voilà.
Ah oui.
Et vous arrivez à parler avec quelqu'un d'extrême droite, vous arrivez.
Oui, voilà. Oui, parce que ce quelqu'un d'extrême droite, humainement, c'est...
Quelqu'un d'extrême droite.
C'est quelqu'un qui sera antisémite.
Ah, si, si.
C'est quelqu'un... Attendez, laissez-moi finir.
Mais je vous en
prie. Ce quelqu'un d'extrême droite, humainement et réellement, c'est quelqu'un qui est généreux, qui se bat pour la liberté, qui se bat pour la démocratie, qui croit dur, qui est dévoué à la cause, notamment à la cause des Gilets jaunes. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui lit Aragon. C'est quelqu'un qui écoute Ferré, Aragon et Brels et sans arrêt.
C'est quelqu'un de très confus, le vôtre, là.
Ben, c'est quelqu'un Non, c'est quelqu'un, moi, je dirais que c'est quelqu'un de complexe. Et c'est quelqu'un de complexe. Et il y a beaucoup d'individus comme ça, et moi, c'est ce que j'ai découvert, justement, qui sont complexes. Moi, c'est cette réalité. Je pense que la littérature, elle est là justement pour témoigner de cette complexité.
Vous citez Julius Evola dans votre... Vous vous souvenez, hein, il y a le mot Julius Evola. Julius Evola, c'est quelqu'un, dans ses parenthèses, quelqu'un qui est revendiqué aussi bien par des gens, disons, assez sympathiques, mais aussi d'extrême droite. Hein. C'est quelqu'un qui vient du futurisme et qui a été sérieusement revendiqué par l'extrême droite. Hein.
Il me semble que je le cite parce qu'à un moment donné, Macron fait une citation bizarre. Voilà. Et moi, je me suis dit, alors je ne l'ai plus exactement en tête, sa citation, mais c'était assez étrange comme citation. Je me suis dit, mais c'est bizarre que, c'est quand même que quelqu'un, qu'un président de la République, que se veut d'une certaine. Enfin, avoir quelques lettres, disons, au moins en théâtre, je ne sais pas. Et donc, j'ai cherché d'où ça pouvait venir. Et j'ai retrouvé, en fait, d'où ça venait. Et ça venait en partie de Julius Evola. Voilà. C'est pour ça que je cite, c'est tout. J'ai pas du tout de. Je ne me réfère. Enfin, je ne me revendique ni de lui, ni de.
Avant qu'on écoute un peu de musique, là, je vais vous lire un tract qu'on m'a envoyé. C'est mon ami Marie-Odile Guintanquin qui fouine des tracts, qui me trouve des merveilles. Il me trouve des merveilles. Donc, vous allez l'identifier avec moi sans aucun problème. C'est pour montrer que par rapport aux deux crétins, et je réitère, Houellebecq et Onfray, ce que c'est qu'une pensée, ce que c'est qu'un style. Voilà. Ça s'intitule Côte d'alerte. Le résultat des élections ne nous préoccupe réellement que dans la mesure où, pour la première fois, siège au Palais Bourbon plus de 50 députés, qu'il n'y a aucune exagération à qualifier de fasciste. Soutenu par toute la presse nazie de Paris, un ramassis de bistrots, de lutteurs, de foires, de voyous, d'épiceries, de bouchers habitués à mettre le pouce à la balance et à circuler dans le sang, s'apprête à nous gouverner avec l'aide de quelques microcéphales de la faculté de droit. Ces voleurs patentés n'en sont plus encore qu'à crier aux voleurs selon une technique éprouvée. Déjà, ils prétendent instaurer la discrimination raciale des Français et ressusciter l'étoile jaune. Malgré le courage dont a fait preuve lançant le député Bokanovski, la formule « défendre la République » n'a pas de sens politique pour nous, surréaliste, ni même à proprement parler de contenu moral. Il faudrait que le système parlementaire fut effectivement l'incarnation de la République pour que nous en discutions. Mais sur le terrain spécifique où nous nous situons, nous jugeons quand même l'ère de la démocratie bourgeoise moins irrespirable que celui de ces arrière-boutiques où se cultive la nostalgie des baignoires du flic et des fours crématoires. Les intérêts qu'il faut bien nommer de l'esprit ne s'incarnent pas pour nous dans une classe sociale ou dans une forme de gouvernement. Il ne s'ensuit pas que nous devions contempler indifférents les massacres de la population d'Afrique du Nord par une soldatesse au gage des bailleurs de fonds de Poujadochfov. Il y a en effet d'ores et déjà un domaine où les exigences immédiates de nos néo-pétinistes sont intolérables, celui de l'Algérie. Demain, si on y prend garde, seront les rues de Paris qu'ils transformeront en terrain de chasse à l'homme. Nous demandons donc au comité d'action des intellectuels contre la répression en Afrique du Nord, qui selon les paroles même de Jean Cassou, constitue le plus important rassemblement qu'on ait vu depuis 1936, de déléguer sans distinction d'opinion politique ou autre un comité d'action contre le fascisme et le colonialisme, d'organiser un boycottage systématique de la finance poujadiste et de ne pas attendre que la violence la plus basse et la plus cynique l'emporte pour mettre en garde une opinion publique complètement désorientée. Ça vous inspire ?
Ça m'inspire qu'il est question du système parlementaire.
Oui, voilà. 56, et c'est signé André Breton, Mandiargue, et gens comme ça.
Ouais.
Voilà.
Ah oui ?
Mais ça, au moins, c'est clair. Au moins, ils ont une position claire.
Ah ben, ils ont une position très extrémiste, oui.
Très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Et on va revenir dessus, d'accord ?
Oui, c'est une autre époque.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. I don't want to live her now. Asking me, well, my
Eh ben merci Monique, toujours avec Gwenola Leroux, Le Temps des Gilets, roman vrai, eh ben l'Arbaton. Hein, voilà, on a plein de discussions, on se dit plein de choses comme ça. Là. Alors oui, avant de faire l'émission, il y avait pas mal de hasards comme ça qui se sont tombés dessus. Il y a eu le Brésil ce matin, c'est au niveau du mot peuple, au niveau de la... C'est pas rien. Et puis hier, sur la seule chaîne de télévision à peu près envisageable, c'est-à-dire à Public Sénat, paradoxalement, je sais pas si vous regardez cette chaîne-là, ça vous arrive là?
Ça m'est arrivé récemment.
Il y avait un rappel des Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors là, c'est les médias, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas aucune crainte. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Brigitte Bardot. Brigitte Bardot venir apporter son soutien aux Gilets jaunes.
Ah bon?
Oui, mais on la voit, elle a revêtu un gilet jaune et puis elle vient serrer la main aux Gilets jaunes. Bon, on a vu Dupont-Aignan.
Oui.
Voilà, on a eu Francis Lalanne.
Oui.
Vous voyez ce qu'il sait?
Je vois, bien sûr.
Niveau. Puis on a vu ce grand comique, comment il s'appelle, une espèce de bigard. Qui est la vulgarité même. Voilà, donc il y a eu ce hasard, et je suis tombé, on m'a envoyé par le courrier ce matin, et je pensais à ça.
Pour introduire un peu plus d'élégance quand même, on peut dire que Juan Branco était dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est un jeune, politique et penseur quand même intéressant, que Vivienne Westwood a apporté à travers son soutien à Julian Assange aussi son soutien aux Gilets jaunes.
Mais c'est ce que j'appelle, par rapport au populisme, il y a un élitisme qui existe. Parce que si on prend ces gens-là, c'est vraiment l'Ali. Bigard et Lalanne, c'est vraiment l'Ali. Heureusement qu'il y a des gens pour penser au-dessus, pour enlever les confusions, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre penser et être dans la rue, quoi. Ce sont les médias et les médias au service du pouvoir, enfin, qui ont caricaturé, qui se sont acharnés à caricaturer les Gilets jaunes, enfin, en tant que personne et en tant que mouvement, quoi. Et justement, moi, ce que je voulais réintroduire à travers mon livre, c'était un vécu qui n'était pas du tout, justement, qui rentrait dans la complexité humaine, voilà, de ce mouvement des Gilets jaunes, parce que ça n'a rien de caricatural, quoi.
Il n'y a pas que les médias. Le dernier séjour, j'ai pris Nuit debout, par exemple, je suis tombé sur une dame assise sur un pliant, qui était en train d'expliquer à qui voulait bien l'entendre, comment on fait de l'électricité avec je ne sais pas quoi. Ça n'avait plus rien de politique.
Oui.
Je veux dire, on est dans une confusion totale.
Mais la vie n'est... Je ne croyais pas que la vie est un peu confusion.
Oui, mais pas... oui,
mais... Il y a une phrase dans ce tract,
attendez, qui... nous jugeons quand même l'ère de la démocratie bourgeoise moins irrespirable que celui de ces arrière-boutiques où se cultive la nostalgie des baignoires, du flic et des fours crématoires. Bien sûr qu'il y a une analyse, on n'avait pas besoin de mettre...
La démocratie bourgeoise, aujourd'hui, incarnée par le pouvoir de Macron...
C'est pas le Chili.
C'est pas le Chili, mais c'est Mais ce n'est pas non plus réellement la démocratie au sens du pouvoir du peuple, puisqu'il y a quelqu'un qui qui interrogeait sur le sens de démocratie. Je veux dire, c'est quand même aussi un pouvoir qui entame de plus en plus les libertés. Nous, concrètement, on a vu pendant depuis 4 ans là, qu'on était empêchés de manifester. Y compris pour les retraites, après, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, mais après, il y a eu toute la lutte contre la réforme des retraites. On était empêchés d'aborder la manifestation. Il fallait faire des détours dans Paris. On ne pouvait pas approcher l'Assemblée nationale. Mais enfin, l'Assemblée nationale, ça devrait être notre maison, maison à tous.
On est absolument.
Voilà. Donc, après, on a été mis au banc de la société parce qu'on ne voulait pas se faire injecter un produit. Voilà, on a chacun son opinion ou son choix, mais enfin c'était quand même une atteinte à la liberté individuelle, mais que moi je n'oublierai jamais être mis au banc de la société pour cette raison, alors que maintenant, et on attend toujours les excuses, alors des gens que vous n'aimez pas, que je n'aime pas forcément non plus au plus haut point, dans ceux que vous avez cités tout à l'heure, eh bien malgré tout, ces gens-là, ils se sont aussi battus à un moment donné contre ça, contre ces atteintes aux libertés. Voilà, moi, j'irai pas les chercher, mais c'est ça la réalité. Moi, je pense à la, par exemple, qu'est-ce qu'un syndicat, souvent, enfin, moi, j'ai un père syndicaliste, alors donc j'ai souvent entendu la définition d'un syndicat, c'est à un moment donné, un syndicat, c'est un rassemblement du plus grand nombre de travailleurs pour défendre ses intérêts. Et on n'a pas à tenir compte des opinions ou des votes politique dans un syndicat normalement, parce que justement on rassemble les gens pour qu'ils soient efficaces pour lutter on les rassemble en grand nombre. Pour moi, les gilets jaunes, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un rassemblement du plus grand nombre contre un pouvoir néolibéral capitaliste, néo-capitaliste, qui est mondialiste, contre une politique mondiale d'exploitation du peuple, des gens.
Mais
voilà.
Là, on sera d'accord. C'est ça. Mais là, on est d'accord.
Voilà. Et ça, il se trouve que ça fait descendre dans la rue, d'accord, et ça fait réagir des tas de gens, y compris des gens qui vont politiquement peut-être, d'accord, voter très différemment.
Et qui seront très dangereux après, bien sûr.
Mais oui, mais ça, on peut pas faire. Enfin, je veux dire,
ils seront très dangereux. On est sur un chemin d'extrême droite. Là, il s'est passé. Le peuple, c'est ça. On va parler football deux secondes. Ça vous intéresse, le football, je suis sûr. l'équipe de Lyon a pris pour entraîneur un type qui était l'entraîneur de l'équipe de France il y a quelques années. Ils ont engagé un joueur croate. Ce joueur croate est arrivé là. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a commencé à faire un discours homophobe et à faire des discours fascistes. Qu'est-ce qui est le plus populaire? Qu'est-ce qui appartient le plus au peuple, sinon le football? L'entraîneur, on lui a posé la question, il dit, ah non, ces gens-là sont réunis par le football, c'est pas mon problème. Il peut faire ce qu'il veut. Et ben, c'est quelque chose que je n'arrive pas à admettre.
De toute façon, ces gens-là, je veux dire, ils sont soumis aux lois comme les autres. Donc, je veux dire, ils sont tout individu tenant des propos discriminatoires sont condamnables.
Mais Gonala, vous avez un jugement, vous, d'accord. Donc, vous avez une réaction par rapport à ça.
Ah ben, c'est intolérable. Bien sûr que c'est intolérable. Donc, j'ai jamais toléré de la part de certains camarades gilets jaunes, toléré les discours antiféministes crasses. Mais vraiment, j'en ai entendu des antiféministes crasses, hein,
moi aussi.
Homophobe ou voilà, j'ai jamais raciste, mais attention, hein, on peut être d'extrême droite et ne pas être raciste, hein, dire un de mes personnages d'extrême droite, il est pas raciste. Hein. Alors par contre, on peut s'entendre sur le fait que faire venir des travailleurs détachés, faire venir des travailleurs d'autres pays pour mieux les exploiter et pour faire des chômeurs en France, voilà, c'est pas vertueux, quoi. Et là-dessus, moi je pense que là il y a quelque chose d'intéressant sur l'entente, hein, qu'on peut avoir avec d'autres gens. Mais bien sûr, pas certainement pas, on ne va pas les exclure parce que, enfin, pour des raisons racistes, bien sûr. Moi, je me suis beaucoup battue sur dans des groupes, hein, c'est surtout des groupes cryptés, enfin, où il y avait des discussions Il y a eu comme ça quelques groupes qui se sont formés, notamment au moment du confinement, parce que les gens étant enfermés chez eux, on a continué à discuter. Et il y a quelques personnes assez courageuses, entre guillemets, qui ont voulu créer des groupes qui rassemblaient un peu tout le monde. Enfin, voilà, des gens dans les cortèges, voilà, qui prenaient éventuellement un café ensemble, en discutant, pas toujours sérieusement d'ailleurs, et puis qui défilaient ensemble. Bon. Et là, on a commencé vraiment à s'étriper, quoi, parce qu'il y avait... Voilà, c'était là, au moment, quand on commence à discuter, là, ça devient... Mais c'est toujours certain, c'est finalement une minorité qui sont...
Au niveau, vous, en tant qu'intellectuel, vous avez une connaissance de l'histoire. Vous savez bien qu'il y a une dimension dans l'histoire. Vous savez bien que, on va aller vite, hein, le nazisme n'est pas le fascisme, c'est pas la même chose, même si l'intensité est la même chose. Je veux dire que 68 n'est pas la guerre d'Algérie. Il y a une véritable tragédie en Algérie, qui n'a peut-être pas la même tragédie pendant 68. Et j'exclus pas les yeux crevés, les mains, etc. Absolument pas. On sait que ça existe. Mais c'est pas la même drame. J'ai vu une pièce dernièrement, il y a quelques années, ça s'appelle Lettres d'Algérie. C'était des types qui écrivaient à leurs fiancés, etc. Et à un moment donné, il y a un type qui revient des années plus tard et qui dit pourquoi la guerre d'Algérie a été comme ça pendant longtemps méprisée et oubliée? Parce que 68, qui était bien plus spectaculaire, est venu trop vite après. Et si on fait le calcul, 62, c'est l'affaire de la guerre d'Algérie. 6 ans après, c'est... Voilà. Mais on ne peut pas comparer l'intensité de la guerre d'Algérie avec 68. C'est pas possible, au niveau de l'intensité. Et dans votre livre, là, vous dites vous-même, je suis une résistante. Je suis une résistante, etc. On n'est pas dans l'occupation. On n'est pas dans... Voilà.
Oui, mais les résistants ne se limitent pas à l'occupation. Enfin, une résistante au pouvoir.
Oui. Au pouvoir en place. L'intensité n'est pas la même.
L'intensité n'est pas la même, mais la tendance quand même fascisante de ce pouvoir aujourd'hui en place est là quand même, hein, d'atteinte aux libertés. Enfin, quand on s'est fait, ça c'est concret, mais quand on a défilé contre la loi sécurité et liberté, qui était un rassemblement de plusieurs, de beaucoup de tendances. Il y avait des Gilets jaunes, mais il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme. C'était même organisé, je crois, par la Ligue des droits de l'homme, cet appel, cette manifestation, il y a à peu près un an, hein, c'était en décembre, je crois. Qu'on a été chargé, mais total, par les côtés. Le cortège a été chargé par les côtés, par les forces de l'ordre. Donc, il y avait un mot d'ordre de nous charger, mais totalement gratuitement, c'est-à-dire il ne se passait rien, les gens marchaient tranquillement, on a été chargé mais sans arrêt et frappé, matraqué, je veux dire, les gens ont été arrêtés, emportés, je veux dire, en garde à vue, mais pour rien, je veux dire, mais c'est quoi,
ça, c'est ça. Pas moi qui veux vous dire le
voilà coup, voilà, non mais je, voilà. Vous me dites, il y a pire, oui, mais y a, je suis d'accord, voilà. bien sûr qu'il y a pire. Et je ne dis pas que vivre sous le régime de Macron c'est pareil que vivre sous le régime d'Hitler ou de Staline, hein, parce que j'ai beaucoup lu sur la Russie, j'ai des raisons personnelles aussi, mais j'ai beaucoup lu là-dessus et beaucoup lu sur le stalinisme. Ça, bien sûr que ce n'est pas pareil, mais il y a quand même une tendance. Et ce n'est pas pareil aussi, je pense, grâce justement à l'histoire sociale et politique de la France.
Heureusement.
Parce qu'on résiste, qu'il y a toujours eu de la résistance à travers de multiples organisations associatives, politiques, syndicales, etc.
Mais là-dedans, vous avez des penseurs qui ont, on va appeler ça comme vous voulez, hein, écrivains, qui ont empêché la confusion. De se retrouver avec un mec d'extrême droite, un homophobe, un antisémite, etc.
Oui, oui.
Voilà, ça c'est des bases qui sont... Voilà. Bon, je vais raconter une histoire très rapidement. J'étais nassé comme tout le monde, moi, la grande manifestation qui descendait de la Porte des Lilas jusqu'à République, là. Oui, et comme je suis claustrophobe, je me suis trouvé en...
Bah
dehors.
Voilà, oui, c'est celle-là dont je parlais.
Oui, c'est celle-là, je me suis trouvé.
Voilà,
je me suis
trouvé qu'on était...
Voilà, j'ai été nassé, j'ai trouvé un moyen et je tombe sur deux jeunes filles, de jeunes filles, entre guillemets, de CRS, de CRS, casquées et tout. À l'intérieur, il y avait un très beau visage d'ange black. À côté, il y avait un très beau visage d'ange là. Et puis, qu'est-ce qui s'est... Elles étaient là, elles bloquaient. Alors, donc, sur le féminisme, on peut réfléchir sur le problème, c'est un problème. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de foule. Un mouvement de foule qui s'est passé, là. Brusquement, elles ont pris leur matraque. Et elles ont été les premières à taper là-dessus.
Ouais.
Bien sûr.
Voilà.
Elles appartiennent aussi au peuple.
Elles appartiennent... Des policiers, oui. Pas pour eux, oui.
C'est le peuple.
Mais oui.
Vous savez,
mais
la grande...
Non, mais je pense que justement, la démocratie, une démocratie plus meilleure, accrue, qui donnerait la parole plus au peuple, effectivement, doit donner la parole à tout le peuple. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir, à part des opinions racistes, homophobes, antiféministes, etc., il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'exprime et que, justement, par l'échange, par la discussion, on arrive à avancer et à progresser.
Vous savez ce qu'on a reproché à Pasolini, qu'il rende quelque part insupportable, bien qu'il dise, il dit une vérité. Il dit que Pasolini était contre les étudiants en 68. Parce qu'il, il a eu des mots sympathiques pour la police italienne, en disant, vous comprenez, les étudiants, c'est des fils de petits bourgeois. Ce qui n'est pas tout à fait faux.
Oui.
Et ces types qu'on a été chercher en mettant des matraques entre les mains, etc., c'est des fils des paysans, etc.
Et ça, c'est du racisme de classe.
Et bien sûr.
Pour moi.
Mais le peuple est là-bas. Mais le peuple, il était. Il était beaucoup plus du côté des ouvriers qui étaient au chômage, qu'on avait mis foutu dans la police. Bien sûr.
Oui, c'est du racisme de classe.
Enfin, bon,
voilà, c'est ce qu'on pouvait aussi pratiquer sous Staline et ses successeurs, c'était un racisme de classe.
Quelles que soient les scories que comporte le mouvement des Gilets jaunes, quels que soient les parasitages dégradants, voyons que dans le soudain redressement des courbés, dans la vocifération des ignorés, dans l'exaspération des derniers de cordée, il y a la revendication d'hommes et de femmes, de vieux et de jeunes, d'être reconnus comme des êtres humains à part entière. Edgar Morin. C'est pas mal, non?
Oui.
Ouais.
On tombera d'accord là-dessus.
C'est bien, c'est au moins. D'accord.
Et puis, je pense qu'on a d'autres
accords. Oui, bien sûr. Il faut bien faire l'avocat du diable, on ne va pas s'en tirer. Et il y a un moment donné, je n'ai pas retrouvé dans votre livre là, où ça se situe, et ça, c'est très bien vu, parce que on est encore dans l'indéfinissable. À un moment donné, vous dites, ils sont partis dans un problème d'essence. D'essence, E2SENCE, là. Et puis, personne ne s'est douté qu'il y avait une essence du peuple. Vous le dites. Voilà, oui. C'est très ambigu. Vous savez que c'est le marquis de Sade, lorsqu'il a rejoint la section des piques, il ne supportait pas les sans-culottes, à cause de leur odeur. Voilà. Mais il y a quelque chose. Bien, on est dans l'insaisissable. Avec le mot peuple, on est dans l'insaisissable.
Oui,
là.
Mais je ne crois pas parler d'essence du peuple. Je pense qu'on est parti d'un problème d'essence, de taxe sur l'essence.
Oui, allez-y, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Hein.
Et on est arrivé à des questions presque d'essence plutôt. Humaine, qu'est-ce que l'homme...
Ça va, très bien, très bien.
Voilà.
C'est moi qui ai mal lu. Petite parenthèse, il y a un livre qui est aux éditions Amsterdam, c'est Le style réactionnaire, ça tombe bien, de Maurras à Houellebecq. Hein? Et ce qui est très drôle, c'est qu'on vient d'une époque où le mot réactionnaire était quand même quelque chose de douteux, et là, des gens sont fiers d'être réactionnaires. Et Houellebecq dit à un moment donné, vous êtes réactionnaire, c'est bien, tous les grands écrivains sont réactionnaires. Et il cite Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski. Ça veut dire qu'on en arrive à... Donc je le conseille, ce livre, c'est le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq. Et quand on pense que nos deux abrutis là, se réclament, un de Maurras et se réclament d'Auguste Comte, je ne sais pas si vous situez bien Comte, c'est la pire réaction qui puisse exister.
Oui.
Alors qu'il y en a un qui a écrit sur Nietzsche au début de sa vie, il y a 20 ou 25 ans, quoi.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Victor ? Il ne vous plaît pas, Victor Hugo ?
Victor Hugo ?
Ouais.
Oh ben,
vous êtes dur avec lui.
Si, il me touche beaucoup, ouais. Victor Hugo. Il me touche beaucoup depuis très longtemps.
Ouais.
Je me souviens j'étais très très sensible. Je me souviens en classe de cinquième à La Légende des siècles. Je trouvais ça absolument merveilleux. Si. Non, mais En fait, j'en avais une image très idéalisée sur le plan de l'engagement politique. Mmh. Voilà, c'était plus ça. C'est-à-dire que j'avais toujours entendu justement. Enfin, j'avais toujours vu le côté soutien populaire, voilà, de Victor Hugo. Et en regardant de près, en fait, j'ai vu que son parcours était beaucoup plus complexe. Enfin, voilà, que ça. Et il n'a pas été républicain.
Il a fait un bel art. Non, c'est quand même un bel art qu'il est parti du royalisme.
Oui.
Il a fini de façon assez sympathique. On ne peut pas y en vouloir.
Hein. Ah non, mais c'est sûr qu'il a eu une belle évolution. Mais par exemple, par rapport à la commune, bon, c'est un peu décevant. Quoi. Mais bon, je comprends aussi. Il était dans un deuil à ce moment-là par rapport à son fils. Donc, il était tellement, tellement mal que. Voilà. Mais après, il a soutenu les communards après la fin de la commune, lors de la répression.
Il y a aussi sa position sur la peine de mort.
Oui, bien sûr.
Qui n'est pas détestable non plus. Non, c'est que le cas.
Oui, non, mais
d'accord.
Ah non, j'aime beaucoup Victor Hugo. Je l'aime beaucoup littérairement, je le trouve absolu. Moi, j'aime beaucoup son lyrisme, beaucoup.
Ce qu'on pourrait dire, j'y tiens absolument par rapport à Front Populaire, la revue là, de Houellebecq et Domfray. Il y a un côté rabougri qu'il n'y a pas chez les Gilets jaunes. Là, maintenant, j'arrive sur votre territoire. Vous dites à un moment donné que les Gilets jaunes, c'est le corps.
Oui, justement, ça m'a...
C'est le corps. Et eux, c'est une absence de corps. Il y a une crispation généralisée, il n'y a pas d'éclat. Pour ça, je disais que ce type qui s'est... Onfray, qui s'est piqué de Nietzsche, il y a quelque chose qui n'a pas... Il est peut-être très intelligent, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et effectivement, les Gilets jaunes, il y a un côté de spectaculaire, etc. Bien sûr.
Oui, je pense que c'était. Il y avait. Enfin, moi, j'ai beaucoup senti ça. C'est vrai que il y avait une présence du corps. Voilà. Et puis les gens étaient heureux d'un contact retrouvé avec les autres, d'un contact charnel retrouvé avec les autres. Ça m'a aussi assez étonnée au début, quoi. Des gens qui allaient dans des petits rassemblements sur des ronds-points à Paris parce qu'ils pouvaient pas marcher. Ils disaient enfin on retrouve un contact avec les autres. Enfin on retrouve de la fraternité.
Vous avez fait ça qu'à Paris, les Gilets jaunes, ou...
Un peu en Bretagne aussi. Ouais.
Mais c'est pas pareil, si.
Bah non, c'est pas pareil.
Paris est une ville.
C'est beaucoup, beaucoup. C'est très, très divers. Mais j'ai retrouvé quand même à travers certains témoignages de gens en province, enfin en Bretagne, pareil, cette rencontre avec une diversité. Enfin, il y avait les déterres, il y avait les autres, il y avait ceux qui critiquaient tout, il y avait une fraternisation. Enfin, bon, et justement, bah oui, c'est cette présence des corps dans un même lieu, avec aussi une liberté de se raconter, une liberté de dire ses misères, en fait, de partager aussi ses misères. Et la fraternité assez spontanée qui venait après, c'était quelque chose qui émouvait beaucoup les gens. Et puis, il y a eu tous ces actes de bravoure, de courage. Enfin, mais déjà, il fallait à certains moments, moi je sais que... Il y a un moment où ils ont dit on va sortir les fusils. Enfin, oui. Je me souviens très bien de ce moment-là.
On revient à 2-3 minutes là. On n'a pas sorti les fusils.
Non.
Donc on est quand même d'un certain côté dans une parodie. On est quand même dans une parodie, même s'il y a des accidents. Ouais. On ne sort pas les fusils.
Le pouvoir, vous voulez dire.
Non, même les Gilets jaunes.
Ah oui, non, mais c'est pas les Gilets jaunes qui ont dit on va sortir les fusils. Hein. C'est le pouvoir qui disait on va faire appel à l'armée.
Il y a un individu, sais pas, vous connaissez mieux que moi l'histoire, qui est ouvertement d'extrême droite, qu'on a appelé à la lutte armée.
Ah ben il y a eu des tas d'appels. Hein.
Voilà.
Il y a eu des tas d'appels.
Oui, le boxeur était très bien, le boxeur.
Le boxeur à main nue, lui, c'était...
Il était magnifique, le boxeur.
À main nue, lui, esthétiquement. Oui, le corps, la présence du corps, là, il était.
La présence du corps, on était en plein dedans, bien sûr.
Non, mais moi, par exemple, David Dufresne, le journaliste qui a fait Un pays qui se tient sage, le livre, puis le film, le dit très bien à un moment donné, il dit, mais... Les Gilets jaunes, mais étaient un mouvement extrêmement pacifique, pacifiste. Parce que c'est vrai, quand on réfléchit on nous accuse toujours de violence. Mais avec les millions de gens qu'on a eus dans la rue à un moment donné, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes descendu dans la rue, mais... voilà, c'était des flots de foule à Paris, mais partout, dans toutes les rues, quoi. D'un quartier à l'autre, on sentait le flot qui allait vers les champs, déjà, enfin, en venant. Il n'y a pas eu un seul, justement, fusil ou arme vraiment sorti. Voilà. Mais ça prouve quand même la profonde idéologie pacifiste, au fond. Enfin, pacifiste dans le sens non guerrière, je veux dire, non guerrière. Même si y avait une détermination pour lutter pour la liberté, pour obtenir les revendications sociales et politiques, mais non guerrière violente, quoi. Quand même. Il y a de la guérilla urbaine, par contre. C'est vrai. Hein? Il y a une dimension de guérilla urbaine.
Oui, mais qui reste d'un côté.
Voilà,
bien sûr.
Qui reste dans la casse de quelques matériels.
Non, oui, d'accord. Alors, Gwenola Leroux, vous avez écrit Le Temps des Gilets jaunes, roman vrai aux éditions de l'Harmattan. Oui, beau lapsus, hein. Oui, c'est parce qu'il y a un gilet jaune à côté, alors, sur la couverture. Alors, vous allez sortir et vous allez trouver le Front Populaire, mettre 14 euros dans le là, et vous allez comprendre pourquoi au niveau, c'est quasiment le thème de l'émission, pourquoi au niveau idéologique, il faut être très sévère avec nous-mêmes et avec les autres, parce qu'on est en train de basculer.
Voilà, mais
il m'a dit, dans 2 ans, l'extrême droite sera au pouvoir. Je leur ai dit, mais tu rigoles, il y a deux ans auparavant. Et là, quand vous lisez ça, ça sent très, très, très mauvais. Mmh. Ils ont quand même réussi à rameuter toute la réaction possible, dont Renaud Camus, l'homme du grand remplacement. Ah oui. Faut quand même y arriver, hein. Mmh. Bon, oui, alors oui, vous vouliez dire, je vous ai interrompu lâchement là.
Je ne sais
plus.
Plus.
Donc, le style réactionnaire de Maurice de Maurras à Houellebecq, hein, audition Amsterdam, ce qui est quand même dur. Hein, notre pseudo prix Nobel est qualifié de réactionnaire. C'est bien d'ailleurs. Et Le Temps des Gilets. Ça vous va, ça, des gilets, roman vrai, Gwenola Leroux, édition de l'Harmattan. Hein? Et on remercie Monique à la technique, si elle est là. Vous n'êtes pas disparue, Monique? Non, c'est parfait. Merci.
Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'algérien, salut à toi, le tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le tchadien, salut à vous, les partisans, salut à toi, la chaulie allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen,
salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigeria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi l'unijambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi le Guatemala, salut le P4 du contingent, salut à toi le Shotokan, salut à toi peuple kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est le Japon, salut à toi le jeune malgache, salut à toi le peuple basque, salut à toi tiens violon, salut à toi et morocon, salut à toi le yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le salvador, salut à toi le molodoy, salut à toi le chinois, salut à toi le zaïrois, salut à toi l'espagnol, salut à toi le ravachol, salut à toi le hongrois, salut à toi l'iroquois, salut aussi à tous les gosses des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du crazy horse, salut à toi la vache qui rit, salut à l'oreille et hardy, salut à toi peuple nomade, salut à tous les camarades, salut à toutes ces mères qui gueulent, salut aussi à Youn Brenner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier.
Y'a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Au fier messager de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des banlieues se taguent un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse, c'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. On gommera nos masques tristes, nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière,
écrit de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la taire pour trouver le droit chemin.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendantes fringues et chic présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau, qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et le drapeau, tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays? Où sans honte, des cyniques, arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient. Où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri. Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?